Maintenant, nous allons donner la parole à Nicolas Mainville et Mandigal, et après Mélanie Nepache.
So the next decision we'll have.
La prochaine décision que nous allons devoir prendre, à quelle heure nous allons nous arrêter? Bon, il me reste 20 minutes par personne, ça fait 3 heures. Ou bien on y va jusqu'à minuit, ou on se retrouve demain. Mon choix serait de revenir demain. Non? On va y aller jusqu'à minuit? Nous sommes à votre disposition. Donc, on verra quand on en arrivera là. J'ai même une meilleure solution. Nous refusons le projet et tout le monde va se coucher.
That was humor, eh?
C'était une pointe d'humour. C'est de l'humour à l'anglaise? Oui, oui. Et même, j'ai des petits divertissements multimédia. Si vous voulez, vous pourriez vous divertir avec ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Boisclair. Je sais que c'est une longue journée, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Je vais essayer d'être rapide et je vais le faire en anglais parce que je veux vraiment m'assurer que tout le monde comprend bien ce que je veux dire ce soir. Mon rôle ici, en tant que porte-parole indépendant pour un organisme indépendant, c'est de jeter un éclairage plus large sur cette question. Je suis biologiste, je travaille pour Greenpeace depuis 7 ans. Et depuis 2010, Greenpeace se bat aux côtés de Waswanipi pour tenter de protéger cette zone. Ma présentation ne portera pas sur ce que nous avons entendu dans la perspective CRI. Je pense que c'est très clair jusqu'à présent. Comme quoi, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les CRI veulent protéger ce territoire. Mais je vais apporter une autre perspective de biologiste et je vais essayer d'envisager les choses dans une perspective plus large. Greenpeace est complètement convaincu que ce projet n'a aucun sens sur le plan économique et sur le plan de la viabilité. La vallée de Broadback est connue depuis nombre d'années comme l'une des possibilités de conservation essentielles au Québec et ça a été reconnu comme un point chaud de conservation. Eh bien, c'est une zone qui présente une valeur écologique immense, mais qui comporte aussi des menaces. Et quand on parle de menaces, je crois que cette carte résume très bien ce dont nous parlons. Voici des images satellites faites par Forest Watch et qui indiquent quelle est l'empreinte industrielle sur la province. Cette image date de 2010. C'est une empreinte cumulative qui dure depuis bien des décennies. Et cette empreinte se dirige de plus en plus vers le nord d'année en année. Et vous voyez très clairement qu'il y a une densification d'activités forestières et de construction de routes dans la partie nord de la forêt commerciale, c'est-à-dire que c'est la forêt boréale et c'est la dernière forêt productive intacte qui nous reste dans cette province. Donc, quand on regarde cette empreinte, je crois que ça indique bien tout ce qu'on a donné à l'industrie, tout ce qu'on a cédé. Je pense qu'il est très clair aussi que personne ici n'est contre l'activité forestière. Greenpeace n'est pas contre l'industrie forestière. Mais il y a des endroits où la coupe forestière ne devrait pas se faire. Il y a des endroits où on devrait reconnaître que la valeur est beaucoup plus grande si les arbres sont debout plutôt qu'abattus. Quand vous regardez l'image inversée, Cette image vient d'images cumulatives provenant de plusieurs satellites pour voir ce qui reste d'intact dans les forêts commerciales du Québec. Les zones vertes sont celles qui sont plus grandes que 100 km² qui n'ont jamais connu d'activité intense. Comme vous le voyez, il n'en reste pas beaucoup au sud de la limite nord. D'après les derniers calculs, 90% de la zone au sud de la limite nord ont déjà été abattus ou fragmentés. Ce qui reste, le 10%, ne figure même pas sur cette carte parce que ces images, certaines d'entre elles remontent à 2001 et d'autres un peu plus tard. Donc, en gros, ce qui nous reste dans l'ensemble de la forêt commerciale au sud de la limite nord, c'est à peu près 10% de forêts intactes. C'est ce que montre l'imagerie satellite. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas vert est complètement dévasté et qu'il n'y reste plus rien. Ça veut dire que c'est une forêt qui a été touchée par la foresterie ou par la fragmentation. Ça veut dire que la structure de la forêt a été influencée par les activités industrielles. Ça veut dire que certaines essences ont disparu. La composition de cette forêt a changé. Ça veut dire aussi, par exemple, le stock de carbone a été modifié aussi. Donc, pour nous, en tant qu'organisme, ces taches vertes au Québec sont les mêmes que celles qu'on trouve en Russie, dans le bassin du Congo ou même dans l'Amazone. Ces dernières forêts intactes sont les endroits les plus importants à préserver sur cette planète. Et nous avons l'occasion au Québec de jouer un rôle de chef de file. Et c'est pourquoi nous avons tenté de convaincre le gouvernement depuis nombre d'années maintenant. Hélas, la protection se fait très lentement. On ne reconnaît que trop lentement l'importance de cette forêt. Et quand il y a tant d'arguments qui se conjuguent, comme pour la rivière Broadback, ça fait appel à un leadership encore plus fort au sein de ce comité. Si on se concentre sur la rivière Broadback, vous avez posé des questions, vous avez dit pourquoi c'est 10% de votre territoire, à quoi faites-vous référence? Mais ces taches vertes, c'est la dernière présence de la forêt intacte. Là, j'ai fait un zoom. Vous avez la proposition de Michigamish avec les points noirs, avec les lignes pointillées. Bon. Je m'excuse de ne pas avoir plus de détails sur cette carte. Mais ces images, les images de satellites sont assez récentes. Et bien sûr, nous avons le projet de route proposé. Et nous avons aussi indiqué la version plus ancienne avec un prolongement plus long ici. Quand on parle de forêt intacte, le Canada, l'année dernière, se classait numéro un au monde en termes de dégradation des forêts. Le Canada est le pire des pays quant à la disparition des forêts intactes dans le monde. Et hélas, quand on regarde des projets précis comme ça, on comprend ce qui se passe. Ces projets se dirigent de plus en plus vers le nord avec de nouvelles routes, de nouvelles activités forestières et on empiète toujours plus. Quand on regarde ce qui se passe dans cette forêt intacte, c'est très simple. Quand vous construisez cette route et celle-ci, vous divisez cette forêt intacte au sud de la rivière Roadback en trois parties petites qui sont plus petites que 500 km², donc elles perdent leur caractère intact. En fait, une forêt est intacte quand elle a assez d'espace pour que les processus puissent demeurer sauvages sans interférence de l'industrie. Donc, des petits fragments sont synonymes d'une vulnérabilité plus grande et aussi de moins de résilience. Donc, c'est un gros problème quand vous envisagez les impacts à long terme sur la forêt. Quand on regarde ces forêts, bien sûr, on parle de caribous forestiers. Nous avons des experts dans la salle. Je ne vais pas m'attarder sur la question du caribou. Comme impact écologique, c'est le plus tangible, mais je voudrais vous expliquer pourquoi on parle de caribou forestier. On en entend beaucoup parler. Et c'est vraiment une espèce qui demande beaucoup, qui est très exigeante. Je pense que quelqu'un en a parlé. Il y avait des caribous forestiers en Mauricie il y a des centaines d'années. Il y a des villages dans le sud qui allaient à la chasse aux caribous il y a 50 ans. Il y avait des caribous à la frontière des États-Unis. Donc les statistiques que nous examinions il y a 100 ans sont très différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Donc, par exemple, aujourd'hui, on entend des arguments disant « Oh bien, il a plus d'espace au nord de la limite nord pour le caribou, mais ce qu'on pourrait dire... » Bon, éliminons toute la population de caribous dans la forêt commerciale. Il y aura des vestiges d'habitat. Et là, vous en aurez beaucoup qui vivront en dehors de la forêt commerciale, mais en tant que province, en tant que régime forestier, comme industrie, on ne reconnaîtrait pas l'importance de la biodiversité, qui est la deuxième crise à laquelle nous devons faire face. À Rio, en 1992, au sommet de Rio, il y a eu deux grandes conventions, en fait, la biodiversité et les changements climatiques. Et la crise de la biodiversité, ça, c'est un exemple très tangible. Donc, le caribou ne tolère pas les perturbations. Il ne vit pas là où il y a des perturbations. Il s'éloigne et les données scientifiques sont très claires. Environnement Canada a beaucoup travaillé à cela, mesuré tous les seuils. 35 %, c'est ce qu'on reconnaît. Nous avons un projet ici qui indique que même si on examine une zone plus étendue, je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est beaucoup plus grand que ce projet. Mais si on construit ces routes et si on va couper des arbres avec les blocs de coupe qui sont fixés pour les prochaines années, on va beaucoup trop loin. Bon, alors, simplement pour le caribou, ce projet signifie qu'on va les éliminer. Et ça, c'est un problème que le COMEX devrait reconnaître. L'autre chose que le chef Happy Jack a mentionné, c'est que on est juste au lendemain d'un énorme sommet sur les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce qui nous reste? Bon, les meilleures solutions faciles pour être certain que le climat ne dérape pas complètement. Alors, en fait, nous avons le plus grand entrepôt de carbone au monde. Au monde, il n'y a nulle part ailleurs, même pas dans l'Amazone, ni en Indonésie, ni au Congo. C'est ici, probablement. Il y a à 500 km plus au nord, dans des zones qui sont encore intactes. Ce sont les zones où vous avez le plus gros entrepôt de carbone au monde. Donc, est-ce que vous allez dire, bon, allons-y et allons industrialiser ces zones, quand on sait que l'impact de l'apport de machinerie va dégager ce carbone? Donc, nous avons une responsabilité. L'autre problème pour nous, qui nous semble très important, c'est dans quelle mesure c'est viable d'aller exploiter la forêt la moins dense au Québec. Bon, le comité scientifique sur la limite nord a fait des études qui montrent la densité des forêts dans la partie boréale de la forêt commerciale. Tout ce qui est en noir, c'est la zone interdite. Donc, c'est pas intéressant. La densité est trop faible pour les industries et trop risquée. Quand vous regardez ces couleurs ici, de 0 à 40% pour la densité, pour l'industrie, ça n'est pas rentable. Ça n'est pas suffisant pour que quand vous investissez du temps, de l'argent et des ressources, vous allez gagner de l'argent. C'est trop loin, il n'y a pas assez de densité pour assurer la rentabilité. Bon, pour ce projet, c'est là que nous sommes. Et la densité est très faible à cet endroit. Peut-être que c'est à la limite. On a fait des analyses par imagerie satellite la densité est de 37 %. Peut-être que ce serait intéressant d'aller là. Il pourrait y avoir un effet de possibilité forestière, garder le volume pour autre chose. Peut-être que ce n'est même pas intéressant d'aller là. Mais même si c'était le cas, je pense qu'il y a une question qui se pose. Combien de temps ce serait viable économiquement? Et si on parlait de résultats, en termes de viabilité économique, eh bien, il y a d'autres facteurs dont il faut tenir compte, dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui, et c'est la controverse. Comment une compagnie pourrait construire ses routes, aller couper tous ses arbres et essayer de les vendre sur le marché international s'ils savent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale de ce projet? Comment les gros clients de ces produits... Bon, en fait, la compagnie achète du papier, achète du bois et sait que ça vient de la région Broadback. Ils savent qu'il y a beaucoup d'intentions dans cette région. Comment ils se sentiraient d'acheter ce bois? Donc, c'est une controverse que l'industrie ne peut pas se permettre, selon moi. C'est un mauvais investissement au mauvais endroit. Nous n'avons rien contre l'industrie forestière, nous n'avons rien contre les compagnies, même s'il y en a certaines, bon, enfin, quoi qu'il en soit, je pense que ce projet en question, ça n'est pas une bonne idée pour l'industrie. Ça n'est pas bon pour leur réputation, ça n'est pas bon pour les forêts et ça n'est pas bon pour le Québec. Donc, j'insisterai pour dire que vous profitiez de cette occasion et peut-être souscrire à ce que Romeo Saganache disait. C'est une bonne occasion pour le COMEX de démontrer le sérieux du COMEX. Quand vous avez tant d'arguments contre ce projet, je pense que le moment est venu de prendre la bonne décision et de dire non. Voilà notre opinion. Merci beaucoup.
Pourriez-vous rester un certain temps parce que je pense que nous avons des questions à vous poser. Et je pense que bien d'autres aimeraient s'exprimer. Tout le monde est fatigué. Je suis là demain, dit le président. Vous pouvez toujours venir demain. Eh bien, si les gens le veulent, il y a une pétition en ligne qui va commencer aujourd'hui. Qui s'appelle Save the Broadback River, où tout le monde pourra signer son nom. C'est une lettre très respectueuse où l'on demande de sauver la rivière Broadback.
Thank you. Merci beaucoup pour cette can we just this question about the density and the with this reasoning about the 40%.
Êtes-vous d'accord pour ce qui est de la viabilité de la récolte
par Greenpeace en termes de densité forestière et de fait que d'aller sur ce territoire ne serait pas économiquement viable? Est-ce que c'est une opinion que vous partagez?
Pas du tout. On a été même obligé de récolter des forêts qui étaient plus denses, mais beaucoup moins économiquement exploitables que celles-là. Si on met des pressions ou on tente d'aller exploiter ces forêts-là, c'est parce qu'on les a regardées, sont économiquement exploitables, sans aucun doute.
Merci. La question que je voudrais vous poser, Monsieur Mainville, and the question I'd like, no, there's also...
J'aurais aussi une autre question pour ce qui est de la vue d'ambiance, Monsieur Saganache. A dit qu'il fallait tenir compte du fait des projets qui ont des retombées, des répercussions sur la communauté, même s'ils n'ont pas lieu sur le territoire de la communauté. Donc, si l'on suit ce raisonnement, certains projets de protection qui ne sont pas réalisés ici auront aussi des répercussions aussi. Donc, on protège 9000 kilomètres au nord de la Broadback. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un geste exceptionnel? Est-il pertinent? Est-ce qu'on va dans la bonne direction du point de vue de la protection de cette rivière? Donc, il y a un engagement qui a été pris. Eh bien, où se trouvent ces 9000 kilomètres carrés? Lorsque l'entente a été annoncée, nous avions bien dit que c'était un pas vers l'avant, quelque chose de positif, mais la moitié de la nouvelle aire protégée se trouve à l'extérieur de l'aire demandé par les Cris. Vous ne parlez pas de la communauté Waswanipi, non, Namaska et Ojibogumu. Et le conseil, donc, c'est à l'extérieur de l'aire protégée demandé. Et pourquoi? Qui sait? Je ne vais pas parler en lieu et place du gouvernement, mais il est sûr qu'il y a eu des pressions de la part de l'industrie parce qu'il s'agit de zones de brûlis qui étaient protégées. Donc, on peut s'interroger quant à la qualité de l'air protégé parce que quand on voit que juste au sud, ce serait la meilleure zone à protéger, une forêt ancienne, beaucoup de carbone, beaucoup de densité, et qui, mieux que les représentants élus de la communauté pour décider de ce projet, cela comprend le gouvernement de la nation CRI. Eh bien, je ne vais pas parler de la division à cet égard, mais du point de vue de la conservation, ce qui a été protégé, pour ce qui est de la qualité du territoire, il valait mieux de protéger l'aire juste au sud de l'aire qui a été choisie. Oui, il vaut toujours mieux parvenir à un accord plutôt que d'imposer une décision. Donc, comment pourrais-je, si je souhaite respecter la réalité des Cris et le représentant élu, qui suis-je pour dire que la nation Cris a pris la mauvaise décision? Non, ce n'est pas une mauvaise décision, mais il faut reconnaître que ce n'était qu'une étape et qu'il y a beaucoup plus à faire. Et si l'exploitation forestière se poursuit, le caribou sera touché. Donc, aidez-moi à comprendre. Nous avons vu la carte que j'ai utilisée tout à l'heure autour du lac Evans. Il y a une protection de 500 mètres et la proposition de Waswanipi était 3 kilomètres. Donc, vous dites que même s'il y avait une protection complète du territoire, comme le demande Waswanipi, Greenpeace serait opposé à ces routes. Parce que, et donc, s'il y avait protection complète, vous seriez néanmoins opposé aux routes. Eh bien, si l'on tient compte du caribou, je pense que la recommandation des experts est tout à fait claire. Cela va bien au-delà de l'air protégé. Si vous demandez la position de Greenpeace, eh bien, elle n'a pas changé depuis 5 ans. Nous estimons que toute l'aire de la Broadback a une telle valeur qu'il faudrait imposer aux Marotois. Toute l'aire, de quoi vous parlez? Je peux vous fournir une carte si ça vous intéresse. Quand vous dites toute la zone, toute l'aire, la vallée, la forêt, donc 21 000 km²,
ce qui reste de forêt intacte.
Okay, c'est le principe des forêts intactes que vous utilisez.
Yeah, so it includes Assiniboia, it includes...
Ça comprend Assiniboia, le nord du lac, la partie nord du lac Evans. C'est une région plus vaste et ça a été reconnu. C'est la position de Greenpeace. Mais ici, nous ne parlons pas de notre position, mais des répercussions de la construction de ces routes. Eh bien, si nous recommandions la protection complète, ce que demande la nation Cree, vous seriez toujours opposé à cette proposition. Vous diriez que l'industrie forestière agit de façon inacceptable. Et donc, vous iriez néanmoins dire partout que la proposition est mauvaise. Je fais peut-être erreur, mais je ne pense pas que votre mandat soit de désigner une aire protégée. c'est de déterminer l'impact des routes et de faire des recommandations si nous décidons d'aller de l'avant. Chaque fois que le comité a donné le feu vert à un projet, il a imposé des conditions après avoir écouté les populations touchées et les populations concernées. Donc, souvent, le feu vert est assorti de conditions. Donc, nous ne sommes pas... Nous pouvons très bien être créatifs. Et c'est justement la force du comité. Nous avons des représentants de la nation CRI et le gouvernement du Québec. J'espère que tout le monde... J'essaie toujours de garder tout le monde content. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour répondre à votre question, le message que j'ai entendu du chef et de bien d'autres personnes, c'est qu'on rejette tout à fait le projet de route. Il ne s'agit pas de protéger la Broadback, mais du fait que ces routes sont inacceptables. Et si vous voulez poser des conditions, c'est refuser le projet et protéger l'air demandé, tel que demandé par la nation Waswanipi. J'aurais une question. Une chose qui me frappe, c'est que nous parlons de ce qui existe maintenant. C'est quelque chose de bien délimité. Et ma question est la suivante. Vous êtes-vous penché sur la fragilité de la situation des caribous, fragilité devant les incendies de forêt? Souviendrez quelqu'un qui a fait une étude de maîtrise sur les conséquences des incendies de forêt. Donc, il y a un incendie quelque part tous les 120 ans. Donc, que va-t-il arriver si le caribou se retrouve dans cette vallée et qu'un incendie feu de forêt entraîne la disparition de ces caribous? Comment contourner ce problème? Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui va se produire, mais le principe, si le principe, c'est que l'on veut préserver la forêt intacte et le caribou, eh bien, et que vous souhaitez que l'on agrandisse l'air protégé ou qu'on la rapetisse pendant un certain temps. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il y aura certainement des incendies de forêt à un moment donné. Oui, voilà pourquoi l'aire protégée doit être beaucoup plus vaste. Si vous regardez tout ce qui est au sud de la limite nordique, il n'y a que 5% qui est protégé. Et ce sont des petites parcelles. Donc, s'il y a un feu de forêt, on perd toute cette parcelle. Donc, un incendie, ça fait partie de l'écosystème. On ne veut pas éviter toute perturbation, mais on veut s'assurer qu'il n'y aura pas de changements radicaux. Donc, il est sûr que si l'air protégé est vaste, la protection sera meilleure. Et si on passe en revue les écrits scientifiques, taille minimale, donc pour ce qui est de la forêt boréale, parfois les incendies de forêt sont très étendus. Donc, si l'on regarde les preuves scientifiques, il faut avoir une aire protégée la plus vaste possible. Et le parc Assinica n'est même pas suffisamment grand. Il y a des zones qui ont brûlé déjà. Il y a aussi beaucoup d'eau. Donc, il faut faire plus. Et c'est un des arguments les plus convaincants, justement. C'est le moment, c'est une occasion de bien agir. Le Québec a reconnu qu'il y avait un objectif de protection d'air protégé. C'était un objectif, une cible qui a été fixée il y a 24 ans à Rio et ça a été reporté 5 fois. Quel est le pourcentage actuellement? 9%, 9,16 pour toute la province, mais pour ce qui est des forêts, c'est seulement 5%. Parce qu'elles sont dans les régions de toundra et de taïga. Donc, il vaut mieux l'air protégé la plus vaste possible. Donc, c'est le meilleur investissement possible. C'est justement la rivière Broadback. Et comme le dira M. Rudolph, il y a aussi des possibilités pour le caribou. Il y a du caribou au nord, au sud. Ensuite, il y a des routes. Mais le corridor, le couloir de la Broadback, c'est le meilleur couloir. Il y a connexion entre toutes les trois Hardes, Assinica, Nottaway et Témiscamingue. Mais si on divise cette région en deux, eh bien, on perd le couloir, le corridor. Et ce serait malheureux que le COMEX approuve un projet qui entraîne un tel résultat. Il y a déjà 3 routes qui traversent, oui, du côté ouest et de l'autre côté. Et il y a la route du nord, oui. Vous avez lu le rapport de Monsieur Rudolph Allen, s'il y a un autre kilomètre de route qui est construit, cela posera vraiment problème aux Hardes de Caribou. Donc, le moment d'agir est maintenant et la décision devrait être prise en faveur du Caribou.
Précédemment, avec d'autres intervenants du plan de rétablissement du caribou, de votre point de vue, qu'est-ce que vous attendez d'un document comme celui-là?
Oui, bien, c'est une très bonne question. Premièrement, ce serait bien qu'il soit publié, pas comme l'autre d'avant, c'est-à-dire 5 ans trop tard. Donc, il faudrait qu'il soit publié maintenant, même qu'il est déjà en retard. Mais c'est clair, de toute façon, on le sait déjà qu'il y a une reconnaissance qu'il faut créer au moins 2 grandes aires protégées en forêt boréale continue. Donc, ça, c'est reconnu. Je pense que les 2 zones sont connues de toute façon, en tout cas, on espère. Il y a les montagnes blanches du côté du nord du lac Saint-Jean, là, où on sait qu'il y a beaucoup de caribous. Et évidemment, la Broadback. Maintenant, qu'est-ce que les conditions vont être dans le cadre du plan de rétablissement? Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur endroit ici pour en parler. Nous, on a fait des recommandations au gouvernement. Je peux vous les envoyer si vous voulez. Mais de rentrer dans les pratiques sylvicoles, les choses à faire, les traitements, tout ça, est-ce que vous voulez qu'on...
Non, je parlais plutôt des grandes lignes du plan. C'est sûr que toutes les questions de pratiques sylvicoles, il y a d'autres tribunes pour en discuter. Il y a des comités techniques, il y a le comité conjoint, tout ça. C'était plus les grandes perspectives qu'on voit, mais j'aimerais, si vous avez une position écrite là-dessus, ce serait intéressant de l'avoir.
Oui,
j'imagine que votre présentation aussi, vous allez la laisser au comité.
Oui, en fait, je vais vous déposer un mémoire qui va amener tous ces arguments-là, puis je pourrais mettre en référence justement ici.
Merci. Merci beaucoup, M. Mabille.
Merci à vous.